carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Mirambeau.
Eh bien, pour ce nouveau Carrefour des Arts, nous recevons aujourd'hui dans les studios de Canal Académie, Jean-Philippe Beck, compositeur. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Christophe.
Jean-Philippe, vous êtes un compositeur, vous êtes vivant, expliquez-moi ça.
Oui, ce n'est pas toujours facile et la musique classique, savante et surtout sa postérité, non, c'est pas évident quoi. Aujourd'hui, avec la profusion de musique qu'il y a, on peut se poser des questions sur l'évolution de cette musique, surtout, on va dire, sur les 70 dernières années.
Alors, à brûle pour point, s'il vous plaît, autoportrait.
Eh bien, moi, d'abord, je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis né à Toulouse. J'ai une petite maison dans un tout petit village de 300 habitants dans les contreforts des Pyrénées. Donc, bon, je suis quelqu'un qui vient de cette terre, on va dire, et peut-être ça s'entend un peu dans ma musique, la nature, tout ça, c'est très important pour moi. J'ai fait mes études au conservatoire de Toulouse, bien sûr, ensuite j'ai continué à Bruxelles, le piano principalement, et ensuite au conservatoire de Paris, j'ai fait toutes mes classes d'écriture traditionnelle et de composition, ce qui n'est pas si commun aujourd'hui. Il y a un peu un divorce entre les deux pour des raisons esthétiques. Certains compositeurs de certaines esthétiques aujourd'hui sont systématiquement blackboulés pour les classes de composition sous prétexte d'arrière-gardisme et beaucoup de compositeurs, on va dire, qui écrivent une musique extrêmement hermétique et peu tournée vers le grand public, refusent de travailler le métier de compositeur et de s'adonner à ces disciplines académiques, soi-disant, que sont l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'orchestration et l'analyse, et aussi l'étude des maîtres du passé, leur pastichage éventuellement.
La composition, c'est une vocation ? Comment devient-on compositeur ? Vous êtes un pianiste émérite, surdiplômé, un concertiste de haut vol. Et pourquoi avoir choisi cette voie plutôt que celle qui s'ouvrait d'une manière peut-être naturelle à vous, qui était de devenir un concertiste international ?
La vie de pianiste concertiste, déjà, ne peut avoir certains inconvénients. Je dirais qu'on n'y pense pas forcément au départ, mais se retrouver tout seul le soir après des concerts, les hôtels, les avions, ça peut être une vie assez fatigante et finalement assez peu gratifiante sous certains aspects. La vie de compositeur est déjà ancrée, c'est-à-dire quelque chose qui vient de soi, et d'aussi loin qu'ils me souviennent, lorsque j'ai commencé la musique, il y a toujours eu cette envie de créer quelque chose qui vienne de moi, cette admiration que j'ai eue toujours pour mes grands aînés, les compositeurs du passé, que je vénère un petit peu comme des dieux. Et oui, vraiment, à 14 ans, j'avais un grand modèle qui était Olivier Messiaen. C'était un petit peu pour moi l'exemple de la réussite de quelqu'un qui est à la fois un musicien accompli, mais aussi qui a créé quelque chose, qui a sorti quelque chose de lui-même, de neuf, de beau. Et ça a été ma première inspiration, oui, qui me fait dire, oui, j'ai envie moi aussi de composer, d'essayer de créer quelque chose. Original, on ne sait pas, mais en tout cas qui vienne de moi et que je puisse faire partager aux autres.
Vous êtes en train de me dire que ça s'impose et que c'est indiscutable ?
Alors ça a été très curieux parce que dans mon parcours, en fait, c'était ma première idée. Et j'ai encore dans mes cartons des extraits de pièces ou des pièces même complètement terminées de ma jeunesse, de 13, 14 ans, voilà. Et il y a eu après, je dirais, une sorte de blackout compositionnel de 6, 7 ans. Puis je m'y suis remis, si j'ose dire, alors que je me préparais pour les concours internationaux, que j'étais au conservatoire de Bruxelles en train de faire mes études. Après, j'ai travaillé aussi avec Jean Fascina, mon maître en piano, vraiment. Et à ce moment-là, la composition encore me taraudait, frappait à la porte, si j'ose dire, en disant, une petite voix intérieure qui me disait, n'oublie pas. C'est ta voie, c'est ton chemin. Et progressivement, les choses se sont imposées de manière beaucoup plus cataclysmique, je dirais, où des choses ont dû sortir. Par un concours de circonstances assez étonnant, je suis rentré en classe de composition au conservatoire, qui, pour quelqu'un à l'esthétique comme la mienne, était une chose assez étrange. Mon ancien professeur et ami Thierry Esquèche aussi a eu un parcours un peu semblable. Je crois que lorsqu'il s'est présenté au concours de composition, il a apporté d'entrée en composition, il a apporté une sonate pour violon et piano en sol dièse mineur. Ce qui, pour un compositeur de musique contemporaine, est assez, on va dire, anachronique. Et c'est Alain Louvier qui l'a défendu en disant « Mais ce garçon a un grand talent, il faut lui donner l'occasion justement de peut-être se développer comme compositeur et pas seulement d'apprendre son métier de compositeur dans les classes d'écriture. » Donc moi, j'ai fait les deux. Et à partir de là, on a vraiment la chance, lorsqu'on est étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, d'être joué par des ensembles de première qualité, avec des futurs grands professionnels de la musique, des gens en fait que l'on croise toute sa vie. Je me souviens de mon professeur de composition Alain Roisamblat, paix à son âme, pauvre homme qui est mort trop jeune, et qui était professeur de composition au CNR de Rueil-Malmaison, où je suis passé quelques petites années, et qui me disait « Ah, tu es rentré en classe de composition, Jean-Philippe, c'est très bien. Retiens bien ce que je te dis. Les gens que tu vas croiser là pendant ces années extrêmement importantes pour toi, tu vas les croiser toute ta vie. » Et ils ne se trompaient pas, effectivement. On se croise les uns les autres, que ce soit des interprètes, des compositeurs, des gens aussi qui vont devenir de grands enseignants dans les classes d'analyse, qui vont avoir des responsabilités aussi, directeurs de conservatoire, direction de la musique et compagnie. Des gens qui vont avoir... qui ont une importance vitale dans la vie artistique et musicale de ce pays.
Et est-ce que vouloir devenir compositeur, alors je me fais un peu l'avocat du diable, évidemment, j'aime bien, c'est pas au fond une volonté de devenir à la fois un démiurge et un pygmalion, c'est-à-dire à la fois tout jouer, tous les instruments, et modeler les instrumentistes et la musique elle-même à votre pensée?
Alors, effectivement, il y a cette dimension-là, on va dire un peu... Il faut être un peu mégalo lorsqu'on est compositeur. Il faut être un peu fou aussi. Moi, je résumerai en disant il faut avoir un grain.
C'est-à-dire... Certains en ont deux, écoutez.
Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'après aussi, bon, il faut quand même aussi ne pas se couper des autres. C'est ce que je reproche à certaines esthétiques d'une musique contemporaine très dure, qui s'est réfugié dans une sorte d'intellectualisme forcené et où, en quelque sorte, le public est très réduit et on ne veut pas qu'il s'agrandisse. Il y a une sorte de comme ça d'élitisme qui exclut le mélomane, on va dire, traditionnel, qui aime pouvoir voir dans la musique d'aujourd'hui des liens avec celle du passé. Alors, moi, je connais des compositeurs, des amis qui sont extrêmement talentueux dans un style de musique extrêmement dur et qui a un tout petit public. Mais il n'y a pas que ça. Et le problème de la musique contemporaine, c'est que les gens aujourd'hui, surtout ceux qui vont dans les concerts symphoniques ou de musique de chambre, qui sont écoutés, qui sont habitués à écouter tout le répertoire des polyphonistes de la Renaissance jusqu'à, on va dire, Debussy, Ravel et Messiaen à la rigueur, ont une peur panique lorsqu'ils voient un compositeur vivant de programmer et où ils se disent « on va passer un mauvais quart d'heure ». Je ne résiste pas, Christophe, à l'envie de vous raconter une petite anecdote personnelle que j'ai vécue à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, où j'étais assis donc pour la création d'une de mes œuvres par l'orchestre. Au programme, il y avait aussi le concerto en sol de Ravel et la 4e symphonie de Brahms. Et ma maman, qui était à côté de moi, me dit « est-ce que tu as entendu ce qu'ont dit les gens derrière nous ?» Je lui dis non. Alors, doucement, elle me raconte. C'était des gens extrêmement bruyants, bon, habitués des concerts, sans doute abonnés, et qui regardaient leur programme et qui avaient dit « Ah, Beck, on va peut-être tomber sur un Beck. Heureusement, après, il y a Ravel et Brahms. » Donc, bon, la pièce est jouée. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de succès auprès du public, auprès des musiciens, plusieurs rappels. Ensuite, ces gens étaient très contrariés parce que, alors qu'ils étaient très bavards, ils sont restés de marbre tout le reste du concert, un peu contrariés d'avoir eu, comment dire, d'avoir présumé de l'avenir immédiat plus agréable que prévu.
Et peut-être aussi de vous avoir éventuellement blessé à l'audition de cette remarque qui
oh,
ne vous a pas échappé.
Je dirais que ça, on a l'habitude, ça aussi c'est un point extrêmement important. Lorsqu'on est créateur, il faut s'attendre à être critiqué, des fois vertement, des fois injustement. Ça n'est pas toujours facile, mais ça fait partie du jeu. Et je dirais aussi au niveau du développement artistique, c'est très important parce qu'on voit après ce qui est en termes d'image, doublesse ou pas, et là on voit où les go est touché, et des fois ça permet d'identifier des choses extrêmement précises qui aident après à évoluer. Je pense par exemple à certaines années passées au conservatoire ou en classe de composition où bon, il y avait ce merveilleux pédagogue qui était Gérard Griset qui nous inspirait et tout, mais qui essayait aussi de nous influencer dans le sens de produire une musique, de se trouver un style de musique complètement inouï qui n'ait jamais été
entendu. Au sens premier du terme.
Voilà. Et oui, au sens premier du terme, effectivement. Et le problème, c'est que certains s'engouffrent dans cette manière de pratiquer, de voir les choses, de se chercher. Et ils se perdent d'une manière, c'est un manque de personnalité flagrant. Moi, je me suis construit justement contre ça, c'est-à-dire que la pièce de mon prix de composition, mon concerto pour violoncelle et orchestre, Heruka, a été durement ressenti par certains en se disant, eh ben voilà, ça y est, il est complètement perdu, il verse dans la musique néotonale, nous avons de la mélodie, nous avons, genre, bon, là, c'est son... tous les poncifs absolument défendus qui nous menacent d'excommunication en musique contemporaine étaient présents là. Et d'ailleurs, bon, certains des copains compositeurs très talentueux, mais dans une autre esthétique, ne m'ont plus adressé la parole à partir de cette pièce, quoi, ou sont extrêmement gênés de discuter avec moi aujourd'hui, d'échanger, ce qui est quand même un comble. Enfin,
c'est la guéguerre des chapelles habituelle dans tous les métiers, et particulièrement dans les métiers artistiques. Je suppose que en musique contemporaine, si vous aimez Brahms, vous êtes interdit d'aimer. Des Meschenberg, peut-être.
Écoutez, moi j'ai coutume de répondre à la question lorsque des journalistes m'interviewent, quels sont vos compositeurs préférés au XXe siècle, et de manière extrêmement provocante, je réponds Rachmaninoff et Puccini. Donc, effectivement, et je rajouterai Bernstein aussi, et là, on a un panorama de personnes qui étaient des merveilleux musiciens professionnels, qui étaient des gens supérieurement inspirés, et qui n'ont pas forcément inventé de nouvelles choses dans le langage. Par contre, au travers de la recherche de leur style, qui est une synthèse de différents autres compositeurs qui les ont inspirés, ils ont quand même fait quelque chose de personnel qui restera à la postérité. Pourquoi faut-il forcément faire des choses absolument hallucinantes en musique contemporaine, laide, mal entendue, mal fichue? Enfin, là, je dis un peu ce que je pense de manière un peu verte, mais c'était effectivement ce qu'on peut avoir des fois, et c'est assez agassant de voir certaines choses qui sont faites avec une parfaite honnêteté intellectuelle, mais où on se demande vraiment, moi je me pose la question, est-ce de la musique? Est-ce que c'est pas plutôt une expérience de laboratoire avec deux éprouvettes? Alors ça peut être extrêmement intéressant. Yanis Xenakis disait, moi je demande pas une œuvre de m'émouvoir, de d'émouvoir le public, je lui demande de m'intéresser, de me faire réfléchir et tout. Moi je n'ai pas du tout cette optique-là, au contraire. Moi je recherche à toucher le cœur des gens. Ça peut être complètement naïf de dire ça, mais je le recherche. Je le recherche même pas. Je me rends compte que c'est, je vais vers ça naturellement, et que à chaque fois que je suis allé contre cette chose-là, ça ne s'est pas bien résolu pour ma musique. À chaque fois, par contre, que j'ai lâché prise sur cette direction, j'ai eu de la satisfaction a posteriori, en faisant aussi la chose a priori. Et surtout, il y a une confiance en soi qui naît, malgré les quolibets, malgré les insultes de certains qui vous traitent d'amateur ou de faussaire. Enfin bon, on en entend des vertes et des pas mûres, mais c'est normal, c'est absolument important. Et puis surtout, moi je suis très sensible au fait de que ma musique puisse créer une réaction positive ou négative, et j'ai souvent eu les extrêmes, c'est-à-dire des gens qui adorent carrément, voire qui sont des fans, et d'autres qui jettent le haro sur moi, qui détestent. Et en plus, à Paris, bon, c'est encore plus... comme disait un ami du Sud-Ouest, il disait ça à une journaliste qui était venue de France 3 Sud pour faire un reportage sur moi au dernier Festival Présence en 2006.
Il dit ici, à Radio France,
oui. Et René Bosque, donc le chef de la création musicale, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dit, vous savez, madame, en s'adressant donc à la journaliste de France 3 Sud, ici à Paris, les gens pensent avec deux verbes. Ils aiment aimer, ils aiment détester, ils détestent aimer. voilà, ils pensent avec deux verbes. Ils ne sont pas comme nous, ils n'aiment pas ou ils ne détestent pas. Non, il y a de la posture, effectivement.
Et le fait de provoquer des réactions marquées dans un sens ou dans un autre, finalement, n'est-il pas le signe que votre musique est intéressante, qu'elle ne laisse pas indifférente, qu'elle n'est pas du tout venant, elle n'est pas de la, entre guillemets, musique d'ascenseur, vous comprenez par là ce que je veux dire. Et justement, n'est-ce pas une chose qui vous réconforte?
Disons que ça, personne ne peut le dire pour le moment, certainement pas moi qui n'ai qu'un recul extrêmement réduit sur ma progression artistique. Je suis un jeune compositeur et on verra dans quelques années, je vous dirai, Christophe. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que par rapport à ma vie, par rapport à l'évolution que je peux avoir, il y a des rencontres. Il y a dans la progression des rendez-vous avec le destin, je dirais, et qui se soldent à chaque fois par un conglomérat de choses qui créent des réactions, qui m'apportent. Je vais vous raconter là une histoire absolument hallucinante qui m'est arrivée avec un de mes amis récents, qui est un humoriste de talent, qui est d'origine maghrébine et que vous connaissez tous puisqu'il s'appelle Smaïn. Bon, Smaïn, qui a eu un petit creux dans sa carrière là, récemment, mais qui recommence là très très fort à faire parler de lui, notamment aussi, moi je ne le savais pas, mais il adore la musique classique. Il a fait un disque avec l'orchestre de Pau, oui, dirigé par Faisal Kaoui, avec Pierre et le Loup.
Et très très beau disque.
Voilà, et c'est quelqu'un qui adore toutes les musiques, et particulièrement la musique classique. Et un jour, Smaïn, à 3h du matin, dans son lit, écoute France Musique, et est tombé en extase, je ne sais pas d'autre mot, à écouter ma pièce L'éveil, donc je crois qu'on a écouté un extrait en début d'émission. Et il a téléphoné à Radio France. Il n'a pas entendu le nom du compositeur. Il a entendu que c'était l'Orchestre National de France, dirigé par Fabien Gabel. Il a téléphoné pour se renseigner qui avait composé cette musique. Il est allé à la FNAC le lendemain pour essayer de chercher mes disques. Évidemment, il n'y en a pas encore qui sont parus. Donc,
vous mentez, on vient de vous enregistrer chez avec l'ensemble Télémac.
C'est vrai, c'est vrai. C'est une pièce dans un disque.
Et vous êtes à Paris dans nos studios, justement parce qu'on vous enregistre en ce moment. Alors, s'il vous plaît, Jean-Philippe, ne soyez pas modeste. Continuez.
Ça vient. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2005, il y avait encore très, très peu de choses. Et il téléphone au chef, à mon ami Fabien Gabel, mais il dit oui, c'est la pièce de Jean-Philippe, écoutez, téléphonez-lui, je crois qu'il sera ravi d'avoir votre retour là-dessus. Et bon, Smaïn m'a téléphoné, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, bon, tutoyons-nous d'abord. Et je lui ai dit, mes disques, je vais te les donner, il n'y a aucun souci, voyons-nous. Et nous nous suivons très régulièrement et c'est très réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça qui a été sensible, mais je dirais à brûle pour point, c'est une surprise. Ça, c'est des choses qui me touchent. Moi, je dis, lorsqu'à la fin d'un concert, il y a une seule vieille grand-mère avec des yeux un peu humides qui vient me voir et qui me dit « Merci, monsieur, j'ai été ému, j'ai reçu mon salaire du soir ». Chance encore pour moi, il y en a plusieurs comme ça et à tous les concerts. Donc bon, je ne me fais pas trop de soucis sur mon avenir. Quant à la valeur de ce que je fais, effective, personne ne peut le dire. Nous verrons dans le futur. J'essaye d'écrire ma musique, de la composer avec le maximum de professionnalisme et après d'essayer de réaliser le mieux mes intentions. Modestement, je dirais, parce que j'ai une conception du métier qui fait que je veux être complètement honnête avec moi-même et jusqu'au bout. Après, bon, il est sûr que... On déplaît à certains, on en séduit d'autres. Bon, on peut me faire le reproche de vouloir trop séduire. Mais ce que je voudrais expliquer à nos auditeurs, c'est que ce n'est pas une volonté effective chez moi. C'est des choses qui me traversent, que j'essaye de retranscrire. Et avec le maximum d'honnêteté, d'amour aussi des musiciens qui vont me jouer. Car dans le geste instrumental, s'ils sentent qu'il y a eu cette volonté... comme on peut la ressentir de la musique de Maurice Ravel, qui est magnifiquement ouvragée. Il y a un contact qui se fait très très rapidement. Je vais vous raconter une autre anecdote assez récente. Il y a un orchestre dans la région de l'Aube. Et c'est le Conseil Général. D'ailleurs, les politiques ont fait vraiment, je trouve, quelque chose d'extraordinaire. Ils ont créé une saison avec un orchestre donc de gens qui sont tous freelance. Donc, ils se retrouvent 3 jours, une fois par mois pour une série. Et c'est un orchestre très récent qui s'est créé autour de Gilles et Daniel Millière. Deux frères. Gilles était le tromboniste solo de l'opéra pendant des années. Il est professeur de trombone au CNSM de Paris. Et il est aussi un chef d'orchestre qui dirige depuis des années des orchestres d'harmonie. Et là, il a créé un orchestre symphonique. Et j'ai été joué récemment au mois de février à Troyes, donc, et en région. Et j'ai été enchanté de travailler avec un orchestre, en plus dans des conditions extrêmement difficiles, où nous avons eu une défection, ma pièce pour accordéon et orchestre, la création a dû en être reportée, et donc ils ont dû jouer une autre pièce, et nous avons eu 1 jour et demi. Et bien à la première lecture, déjà j'ai su que ça allait bien se passer. Les musiciens se sont emparés de la chose, j'étais là, il y a eu donc une communication très forte aussi, j'ai beaucoup aidé le chef et tout, mais en très très peu de temps, il y a eu une compréhension immédiate. Les musiciens sont venus me voir beaucoup après en me disant c'est bien écrit, c'est agréable, on s'attendait pas, merci. Ça, c'est des choses pour moi, là aussi j'ai reçu mon salaire. Je dirais que la composition est une activité très solitaire. Des fois, on peut se sentir vraiment seul au monde et complètement abandonné face au présupposé de départ que l'on s'est fixé. Des fois, dans les galères dans lesquelles on s'est mis soi-même avec des choses à réaliser. Et là, lorsque l'accomplissement de ces concerts, la communication avec les musiciens, avec le chef et avec le public, c'est très important. Ce sont pour moi des moments rares et très importants.
Thank you.
Arrivez-vous à trouver votre langage et votre modernité dans le cadre d'une patte qui finalement semblait avoir au XXe siècle déjà tout donné, donné tout son jus et donné tout ce qu'elle pouvait offrir comme palette d'expression?
Bien, il y a des compositeurs qui ont tout à fait prouvé le contraire. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est un qui est mort et qui est un grand génie, qui était vilipendé, méprisé par Pierre Boulez, par exemple, qui était Francis Poulenc, qui a écrit le Dialogue des Carmélites, qui est, à mon avis, un des plus beaux opéras du XXe siècle. Très émouvant, très réussi. Alors, on peut dire, on peut objecter, oui, le langage de Poulenc, c'est l'harmonie de Fauré et de Ravel. C'est vrai. Mais il a pris ce présupposé de départ, si j'ose dire, il se l'est approprié, c'était son langage, et à travers ça, on reconnaît quand même Poulenc, qu'il y a une marque de fabrique. Alors certes, il n'a pas poussé la prospection sur qu'à ouvrir de nouveaux territoires, mais est-ce que c'est vraiment le gage d'une musique d'un compositeur vivant de qualité? Pour certains, on va dire pour les compositeurs qui voient l'histoire comme une sorte de longue évolution linéaire où Boulez serait la conséquence automatique des derniers quatuors de Beethoven et de l'art de la fugue. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision monomaniaque de l'histoire de la musique. Et on a vu de grands comme ça revirements, je dirais, et de la part des plus grands génies le premier d'entre eux, Jean-Sébastien Bach, où on a des lettres de ses fils qui leur disent « Écoute, papa, tu n'es plus du tout à la page. On n'écrit plus des fugues aujourd'hui. On est dans l'Allegro de sonate. T'es complètement à côté de la plaque. » Et lui, il s'en fichait pas mal. Aujourd'hui, en plus, on a un réseau de communication avec Internet qui permet... C'est aussi problématique, cette mondialisation généralisée au niveau de la musique, où on pourrait perdre notre identité. Moi, je suis fier de dire que je suis un compositeur français et que ça s'entend dans ma musique. Pas parce que je le revendique, mais parce qu'on me l'a dit. Et il est vrai que lorsqu'on y regarde un peu à la loupe, il y a quand même des universaux qui font que c'est de la musique française, qui a un certain raffinement sonore, du moins j'essaie, et un goût pour l'orchestration, l'harmonie, une certaine forme aussi d'expression mélodique. Bon, ben là, je parle d'harmonie, de mélodie, dont on va parler de rythme pulsé. Et pour moi, ce sont vraiment des présupposés de départ pour une vraie musique qui puisse accrocher un grand public et qui ne soit pas juste une suite de déflagrations et de tenues comme on en a trop entendu dans la musique de la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors justement, Jean-Philippe, je voudrais que nous écoutions votre orchestre et un extrait d'une de vos pièces symphoniques, Saturne, sur laquelle vous allez réagir dès que nous l'aurons écouté. Nous venons d'entendre Saturne de Jean-Philippe Beck. Jean-Philippe, Saturne, racontez-nous.
Bien, c'est une commande de Radio France, ma première commande Radio France, et de suite pour le grand orchestre. J'ai eu beaucoup de chance grâce à René Bosque, l'actuel, toujours en place, directeur de la création musicale et directeur artistique du Festival Présence. Et c'est une œuvre qui a été en grande partie pratiquement entièrement composée à la Casa de Velázquez, où j'ai séjourné de septembre 2001 à août 2003. C'est une pièce très importante pour moi. C'est ma première pièce pour très grand orchestre.
Très grand, c'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire les bois par trois. On va dire il y a à peu près 80 musiciens, quoi. Donc ça vraiment. Alors j'y ai. Bon, comme toutes les premières pièces pour orchestre, son défaut peut-être, c'est que j'y ai tout mis. Donc, mais en même temps, c'est une œuvre à laquelle je suis très attaché. Pour moi, ça a été un moment très important. C'est une œuvre aussi qui a eu un retentissement pas forcément positif. Il y a eu une sorte de bataille d'Hernani, on va dire, qui s'est déroulée à Radio France.
Oui, tout Paris a parlé de vos aventures à Radio France. Alors justement, excusez-moi de vous interrompre, Jean-Philippe, mais pour un jeune compositeur contemporain, qu'est-ce qui compte être un compositeur institutionnalisé, couronné par les instances ministérielles et à une certaine reconnaissance d'État, ou simplement le public et l'appréciation des auditeurs dans la salle, ou est-ce que l'un est le corollaire de l'autre et l'un est le nécessaire élément qui permet à l'autre d'apprécier votre œuvre?
Moi, c'est surtout une rencontre avec des musiciens d'abord et avec un public ensuite, et le reste est complètement secondaire, superfétatoire. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de très bons rapports avec mes publics, les musiciens qui jouent ma musique, les chefs qui me dirigent, et il y a le succès. Je dirais après que les institutions, ça viendra plus tard. J'ai eu très très peu de commandes. Bon, je dois dire que Radio France a beaucoup appuyé mon travail. Je leur ai amené aussi des choses intéressantes, par exemple comme l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui n'avait jamais mis un compositeur en résidence, qui n'avait jamais joué à Radio France, qui maintenant met un compositeur en résidence tous les deux ans. À l'heure actuelle, c'est Carole Beffa. Moi, j'ai ouvert le feu, donc j'ai été le premier compositeur en résidence de l'histoire de cet orchestre.
Jean-Philippe Beck, de quoi vit un jeune compositeur? Vous écrivez dans votre chambrette, et puis ensuite vous envoyez comme un auteur un manuscrit à un orchestre, à un théâtre, à un programmateur, ou alors vous fonctionnez avec de la commande, on vous téléphone pour vous commander une pièce nouvelle. Comment ça marche?
Je fonctionne vraiment à l'envers de tous mes collègues, c'est-à-dire j'ai des projets, j'ai des idées, j'ai des visions, on va dire, de certaines choses qui, et j'essaye de les réaliser. Donc à partir du moment où j'ai une idée, bon, évidemment, plus il y a de musiciens, plus elle implique du grand orchestre, plus elle a besoin d'être soutenue par l'institutionnel. Quand si c'est une pièce pour un instrument soliste, on va dire c'est plutôt en rapport avec un interprète avec qui j'ai une relation privilégiée, qui va la créer, où il va y avoir aussi un aller-retour entre l'interprète et le compositeur. Donc c'est deux démarches complètement différentes. Moi j'ai d'abord les idées, après je cherche les commandes, c'est-à-dire c'est ma manière de fonctionner, peut-être aussi parce que justement d'autres amis compositeurs qui ont plus de chance avec moi, avec l'institution, avec des commandes d'État comme ça, bon, ont davantage de commandes, donc eux ils ne composent que sur commande et qu'avec des contraintes de départ. Moi j'ai choisi de garder ma liberté, d'avoir des projets et après d'essayer de les réaliser au sein d'une résidence comme la Casa de Velázquez ou à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, ou alors aussi avec le soutien d'orchestres prestigieux comme le Filard de Radio France et bon, quelques stars de la musique classique. Il y a des choses qui sont à venir là et qui pour moi auront, je pense, un retentissement important.
Thank you.
La pièce que nous venons d'entendre est un extrait de votre concerto pour accordéon et orchestre.
Oui, c'est une de mes dernières pièces. Ce sont des quatre illuminations d'après des poèmes d'Arthur Rimbaud, bien sûr. Là encore, une rencontre, la rencontre de mon ami Jean-Marc Fabiano, qui jouait dans l'ensemble Téléma, qui est un ensemble qui m'a beaucoup joué lors de ma résidence à la Casa de Velázquez, qui est venu aussi jouer au Festival Présence à Radio France. D'ailleurs, il y a un disque de cet ensemble où quatre compositeurs qui ont été des pensionnaires de la Casa de Velázquez, des membres de la section artistique, pour être administrativement précis. Donc je crois qu'il y a mon ami Gilles Silvestrini, mon ami Julien Dacier, mon ami Thierry Machuel et moi-même donc sur ce disque. Nous avons été à peu près tous en résidence à la Casa des années 2000 à 2004. Et donc ce disque s'appelle Écho au pluriel d'artistes, puisqu'il y a plusieurs arts qui se sont réfléchis dans la musique. Les poèmes de Guy Levic pour Machuel, les poèmes d'une poétesse chinoise dont j'ai malheureusement oublié le nom pour Silvestrini. Pour moi-même, un poème de mon ami Philippe Macaigne autour de Giordano Bruno, le grand philosophe italien, et un poème qui s'appelle Paciencia, Philippe Macaigne, qui est vraiment un écrivain de grand talent, et quelqu'un qui était, puisque maintenant il ne l'est plus, un merveilleux metteur en scène de théâtre, et acteur lui-même, et qui vraiment là a fait un poème absolument extraordinaire.
Jean-Philippe Beck, quand une de vos œuvres est en répétition auprès d'un orchestre, je suppose que vous êtes dans la salle, que vous écoutez la répétition. Où vient-il l'envie et le faites-vous pour la répétition suivante d'améliorer, de changer un détail? Ou est-ce que, comme Charles Chaine de l'Académie des Beaux-Arts, dont on vient de créer le nouvel opéra à l'Opéra de Metz, laissez-vous l'œuvre vivre toute seule, quoi qu'il en soit, une fois qu'elle est tirée sur papier et déposée sur le pupitre des musiciens et du chef d'orchestre?
Alors, j'ai une position médiane, en fait, par rapport à ces deux approches. Je ne réécris pas mes œuvres, ça c'est vrai. C'est ce qu'on peut reprocher à certains, de vouloir tout le temps réécrire la même œuvre, d'essayer de l'améliorer. C'est un peu peut-être le drame de Pierre Boulez, qui a fait X versions de certaines œuvres et qui n'accepte toujours pas peut-être certaines imperfections qu'il trouve dans certaines versions. Je crois qu'il faut lâcher prise à un moment et se dire effectivement, un peu comme Charles Chaine que vous avez évoqué, qu'il faut laisser vivre son œuvre. Mais en même temps, je trouve que la répétition est le lieu justement de communication avec les musiciens où je ne change pas énormément de choses. Bon, on corrige déjà les fautes qu'il peut y avoir dans le matériel, ça c'est important.
Surtout oui, dans les cas de fautes de copie.
Voilà. Surtout quand on a un petit peu d'oreille. Mais bon, des fois, ça peut être un tel magma que bon, une petite fausse note, enfin je parle de certaines pièces là qu'on peut entendre, une petite fausse note ou une autre ne fait pas grande différence. Dans ma musique, il est vrai que corriger les choses, pour moi c'est très important, et en plus bon, ça améliore le rapport avec les musiciens qui voient vraiment qu'il y a une volonté forte derrière. Je ne suis pas trop interventionniste, car les musiciens connaissent très bien leur métier. Lorsqu'on a suffisamment bien fait son travail, que beaucoup de détails sont indiqués, ça c'est une des choses que j'ai appris chez Jean-Louis Florence, et il faut avoir vraiment beaucoup d'honnêteté dans son métier de compositeur, éventuellement même noter des codes archets précis, et les avoir vérifiés avec des instrumentistes, avoir vraiment poussé le travail jusque dans ses ultimes retranchements pour que le moment de la répétition soit un moment optimal pour que le chef règle bien ses musiciens, qui s'accorde avec eux et qu'éventuellement, lorsque les problèmes techniques ont été résolus, on commence à faire de la musique. Alors là, on intervient si le chef n'a pas complètement compris votre œuvre. On peut intervenir, on dit des choses directement aux musiciens aussi. Par exemple, moi, quand je corrige certaines erreurs, le chef fait son travail, je pars derrière dans l'orchestre, aller m'adresser à certains musiciens en particulier, leur disant certaines choses. On gagne du temps, et les chefs aussi n'aiment pas trop que les compositeurs viennent faire des grands discours, ce n'est pas le lieu d'ailleurs. Lui communique avec ses gestes, et nous les compositeurs, bon, il suffit que l'on donne quelques toutes petites indications, des fois, être obligé de recadrer les choses, mais si on a bien préparé son travail en amont, il n'y a aucun problème.
Jean-Philippe Beck, évidemment, vous avez des projets. Il y en a un en ce moment qui vous occupe particulièrement et nous en sommes à la genèse. Ce n'est pas un jeu de mots, comme vous allez le comprendre dans quelques secondes. Vous êtes en train de composer une œuvre dont je vais vous laisser le soin en tant qu'auteur de la définir pour Roberto Alagna et qui sera créée en 2010, n'est-ce
voilà,
pas ?
Voilà, ça le plaît, vraisemblablement, les choses sont en train de se mettre en place. Eh bien oui, j'ai cette grande chance qu'une aussi grande star de la musique classique et de la musique en général, qui est Roberto Alagna, s'intéresse à mon travail et nous allons collaborer dans une œuvre alors très particulière, qui représente pour moi un défi et à la fois, je dirais, une expérience compositionnelle et artistique dont je ne vais pas ressortir indemne. Mais c'est à la fois un rêve d'enfant qui se réalise, je dirais. Bon, comme je vous l'ai dit dans toute cette émission, Christophe, la spiritualité irrigue toutes mes œuvres. Hein. Vraiment, je le redis, mais j'ai dit ça dans une interview, la musique est la colonne vertébrale de ma vie et la spiritualité en est la moelle épinière. Et donc là, il s'agit de Jésus. Je dirais mon premier amour de spiritualité d'enfance où cette œuvre qui va s'appeler Yishalem, qui est un titre en araméen christo-palestinien, puisque toute l'œuvre sera dans cette langue. Alors qu'est-ce que l'araméen christo-palestinien ? Bon, l'araméen, on sait vaguement que c'est la langue du temps de Jésus, que c'est une langue sémitique, mais l'araméen christo-palestinien, c'est l'araméen du premier siècle, c'est-à-dire celui que parlait Jésus. Alors, nous le reconstituons en ce moment avec l'aide de ce merveilleux chercheur au CNRS, professeur au Collège de France, qui est Alain Desremaux, qui rétroverse en ce moment, c'est-à-dire fait une traduction, le texte de mon ami Gabriel Attic, un jeune écrivain, lui-même historien, spécialiste en christianisme ancien et en patristique. Cette œuvre va s'articuler autour du Jeudi Saint, donc pour 13 voix d'hommes et orchestre, donc vous devinez évidemment que Roberto sera Jésus, et que, avec ses 12 disciples. Nous avons composé le livret à partir des 4 évangiles canoniques, mais aussi d'évangiles apocryphes, avec l'actualité de l'évangile de Judas, et d'autres évangiles gnostiques. Il y a un apocryphe très connu, les Actes de Jean, que nous incluons dans cette œuvre. Et la progression de l'œuvre se déroule à peu près de la scène, donc ils sont réunis à Béthanie, et jusqu'au jardin de Gethsémané, donc jusqu'au baiser de Judas et l'arrestation de Jésus. Donc l'araméen christo-palestinien, ça va être une grande première. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, La Passion, qui est d'ailleurs une supercherie historique, puisque la langue administrative n'était pas le latin, puisque les Romains parlent latin dans ce film, mais c'était le grec. Et enfin, l'araméen qui est utilisé est l'araméen du 4e, 6e siècle, qui est du syriaque, qui est une langue tout à fait codifiée, qui est enseignée dans plusieurs écoles de langue orientale ou à l'Institut catholique ici à Paris. Et donc, il s'est servi de syriaque, qui est de l'araméen, issu de l'araméen christo-palestinien, mais qui n'est pas le pur araméen du temps de Jésus. Donc, nous, on essaye de remonter vraiment à cette langue de Jésus. Alors, on va se faire critiquer sur un petit détail qui est effectivement qu'on sait exactement comment les consonnes étaient prononcées, Mais on a quelques doutes sur les voyelles. Il y a des choix entre les L, les I, les E.
Mais nous sommes dans le domaine de l'art quand même, Jean-Philippe. Nous avons le droit quand même, je suppose, à quelques petites variations.
Voilà. Et donc, bon, on s'appuie là-dessus. C'est, je pense, ça va être un moment extrêmement important de voir cette langue musicalisée. Moi, je suis en train de l'apprendre, cette langue, parce que derrière aussi, ben, je vais faire un Vendredi Saint, toujours avec Roberto, qui veut absolument le faire, et un dimanche matin aussi avec une petite scénette à trois personnages. Donc voilà, ça va être une sorte de triptyque. Là, Yishalem fera 50 minutes, et c'est une œuvre donc qui sera achevée, je pense, début 2009.
Jean-Philippe, vous avez sous les yeux justement toute chaude sortie de la plume de vos auteurs, une rétroversion d'un des passages de votre œuvre future en gestation, en composition. Je vous en prie, régalez-nous de quelques mots en araméen.
Alors, eh bien, il va s'agir du Notre Père, donc je vais juste vous lire le début, Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Abunan debgao shumaya, et chadda shimar, tite melkutar. Voilà, donc tout ça sera évidemment chanté, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de cette langue. Alors on va se heurter à un petit problème très intéressant, c'est que le placement lyrique, les R sont roulés dans cette langue, donc déjà ça simplifie beaucoup de choses. Mais il y a certaines consonnes, on va dire, qui, comme dans des langues comme l'arabe, sont extrêmement laryngées, où le larynx remonte, les kra, des occlusions glottales aussi, des choses comme ça, qui sont où le larynx remonte. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir justement la combinaison du placement lyrique avec quelque chose qui ressort plus de certaines langues extra-européennes, où justement le larynx est utilisé pour avoir des choses que justement qui sont défendues dans le domaine du chant lyrique, et où on se retrouvera en train de marier les deux.
Alors Jean-Philippe, j'ai envie de faire le journaliste de base, inculte, enfin bon, des fois c'est un pléonasme, un journaliste. Et donc, je vais vous poser la question people. Quel effet ça fait d'écrire de la musique pour une star ?
Eh bien, bon, déjà, c'est une histoire assez incroyable, puisque moi, j'ai eu l'idée de cette pièce de manière extrêmement fortuite, je dirais. Bon, là, les sixième et septième sens que j'ai décrits tout à l'heure étaient, mon cerveau cliquetait dans tous les sens. Donc, j'ai osé écrire à Roberto. J'avais un contact, c'était un ami, mon ami Stéphane Reichard, qui est un ingénieur du son, qui est un ami de Roberto, qui travaille très souvent avec lui. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est lui qui a enregistré le disque des Mariano, le fameux crossover qu'a fait récemment Roberto. Je crois qu'il y en a un autre à venir avec Piaf et tout. Enfin bon, on va voir ça dans quelques mois. Donc Roberto est dans une période de carrière où je crois qu'il s'ennuie un peu ferme. Enfin, on va dire ça dans le champ lyrique, c'est-à-dire qu'il en a fait le tour. Il est vraiment un immense chanteur et il a une célébrité internationale. Et donc il veut faire des choses différentes. Et parmi ces choses, moi, je lui ai proposé de faire une création de moi, donc, et de chanter Jésus en araméen. Et sa réaction a été immédiate. Sa sœur Marinelle m'a prévenu par mail. Elle est son agent et son coordinateur artistique. Et elle m'a prévenu immédiatement. Il est très intéressé. Nous nous sommes rencontrés au mois d'octobre dernier. Et il m'a donné son accord plein et entier. Et donc, voilà comment a commencé l'affaire. Et après, je dirais, ça va être dans toutes les étapes de création où lui veut avoir un retour sur ma musique au niveau de l'écriture pour la voix. Bon, bien sûr, il connaît déjà certaines de mes œuvres où il y a des voix qui sont où la voix est présente. Donc, il sait déjà que j'ai un genre de musique qui va tout à fait s'accommoder avec une ligne mélodique et, on va dire, le lyrique, le chant. Parce que bon, moi, je suis...
Par essence, votre musique est lyrique, déjà.
Effectivement, mais des fois, quand on va à l'opéra écouter certains opéras composés par des compositeurs vivants, bon, on a du mal, des fois, à trouver un grand moment, un grand aria, où enfin, on va se dire, ah, ça y est, voilà un grand air. et non, c'est une autre esthétique qui, c'est, ça produit aussi des choses intéressantes, mais je trouve quand même que ce monde a besoin de mélodies, ce monde a besoin de ce facteur extrêmement fédérateur en musique et qui fait que le public aussi va pouvoir s'y identifier. Après, bon, ça inclut une harmonie, après on peut avoir du contrepoint, on peut avoir une profusion de lignes mélodiques, mais quand il y en a une qui est prédominante, qu'elle est belle, qu'elle est ouvragée, qu'elle a été aussi composée pour quelqu'un en particulier, et là je connais un peu la voix de Roberto, mais nous allons nous voir régulièrement pour travailler sur la prononciation de l'araméen, sur certaines choses qui pourront, certains passages, certaines consonnes, certaines voyelles aussi. Bon, il y a des choses qu'il faut savoir, mais par exemple des i, écrire des i dans l'aigu pour un chanteur, bon, c'est le condamner à un calvaire. Voilà. Donc bon, ça, c'est des choses aussi simples que ça, déjà doivent être réglées, mais elles peuvent être réglées et être, on va dire, composées vraiment de manière extrêmement précise, où le chanteur, il va être complètement à l'aise et il va s'approprier d'autant mieux la chose. Donc effectivement, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, déjà, ça change beaucoup de choses. Je dois dire que composer pour une grande star, c'est un sésame qui vous ouvre des portes, où les gens se disent ben oui, on y va. Et puis après, on verra bien. Bon, évidemment, ça va sans doute déclencher certaines jalousies, enfin, certains qui vont se dire mais comment il l'a fait, tout ça. Ben, c'est très simple, et là je le dis à nos auditeurs, je lui ai écrit, je lui ai rencontré, nous avons parlé, et puis nous collaborons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas être des fois farouche, il faut dire j'ai telle idée.
Pour être star, ils n'en sont pas moins hommes.
Exactement, et puis surtout, je crois qu'aujourd'hui, il y a un répertoire qui est présent, qui est consacré, mais ce qui peut se faire en création est très important aussi, car ce sont les œuvres de la postérité d'un futur très lointain, peut-être. Et ce fait aussi de ne pas savoir ce qui va rester, ce qui va être identifié comme une grande œuvre, c'est assez excitant. Bon, ben oui, il peut y avoir des ratés, peut-être des opéras qui sont créés, des grandes œuvres pour orchestre, non, peut-être pas la teneur, le niveau qui va faire qu'elles vont rester dans l'histoire de la musique. Mais il faut essayer.
L'essentiel, c'est de le faire, naturellement.
Exactement. Être dans... Et Roberto fonctionne beaucoup comme ça. Il fait les choses. Alors, bon, on peut ne pas être d'accord avec certains de ses choix, son passage à la Star Academy et compagnie. Mais après tout, pourquoi pas ? Et puis, je pense que la chose peut fonctionner à l'envers. Regardons par exemple des gens qui sont fans de télé. Ils vont voir quelqu'un comme Roberto Alagna chanter peut-être une chanson classique ou une chanson du répertoire de chansons françaises. Et puis peut-être ils vont avoir l'idée d'écouter de l'opéra. Et puis ils vont peut-être avoir
Absolument.
Des amis qui disent... Et ça peut fonctionner à l'envers. Je pense que si des gens, par exemple, aiment André Rieu, si on leur dit, écoutez plutôt le concert du Nouvel An de...
Philharmonique
de Vienne. Et essayez de mettre les deux en regard.
Bien sûr.
Et le problème aujourd'hui, je dirais d'une certaine... d'un certain nivellement par le bas, d'éducation musicale, de la culture musicale, c'est justement de ne pas mettre les choses en rapport les unes avec les autres. Je pense qu'une personne normalement constituée, si elle est fan d'André Rieu et qu'on lui met à écouter André Rieu et à côté le concert du Nouvel An dirigé par Laurine Mazur, Zubin Mehta ou je ne sais qui, ou ce chef d'orchestre que j'adore, par exemple, décédé récemment en 2004, Carlos Kleiber.
Ah, oui, merveille.
Voilà. Eh bien, là, il va se dire, c'est quand même différent. Même, à l'aveugle, il va dire, ça, c'est mieux. Et évidemment, il va désigner l'interprète de musique classique, c'est-à-dire, on va dire, le champagne plutôt que le Coca-Cola. J'ai toujours cette image complètement grotesque, mais c'est à peu près ça. Ça a des bulles, mais ça n'a pas du tout le même goût. Et puis surtout, socialement, on peut penser que si on boit du Coca tous les jours, on n'a pas droit au champagne si on nous en propose une coupe. Tout le problème est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens pensent que l'art savant appartient à une certaine classe sociale. Même à l'heure d'Internet, de la communication mondiale, sur tous les plans, où vous rencontrez quelqu'un, vous tapez son nom sur Google et vous apprenez des tas de choses sur lui, peut-être même des choses choses qu'il n'a pas envie qu'on sache, etc. Eh bien, on reste quand même confronté à ce problème de classe, à ce problème de monde qui ne cohabite pas, où il y a des épaisses cloisons qui sont construites entre les gens. Moi, si j'ai un but dans ma vie, c'est par le biais de ma musique d'essayer d'abattre certaines de ces cloisons, peut-être juste un petit muret. Mais si j'arrive à faire ça, j'aurai fait quelque chose d'utile.
Jean-Philippe Beck, je vous remercie infiniment pour ces moments que vous nous avez consacrés. Naturellement, je vous dis à l'italienne tanti auguri pour votre nouvelle composition et pour cette création qui s'annonce particulièrement brillante et passionnante. Nous y serons.
C'est moi qui vous remercie, Christophe, de m'avoir accueilli.
Au revoir, Jean-Philippe.
Au revoir.
Nous allons écouter pour finir cette émission avec Jean-Philippe Beck, compositeur, son pandémonium pour deux pianos MIDI.